Alors bonjour à tous, donc on va rester sur la thématique HLM, car donc je travaille à Laorif. Alors je vais déjà présenter un petit peu de quoi il s'agit. Alors Laorif, c'est une association en 1901 qui fédère les 136 organismes HLM d'Île-de-France, donc qui gère 1,2 million de logements, donc ça représente, pour vous donner une petite idée, un quart du patrimoine français de logements sociaux. Donc Laorif est, à titre de représentation des organismes HLM, en charge de la déclinaison des politiques d'habitat, et ce à toutes les échelles, régionales, départementales et surtout intercommunales depuis les dernières lois Allure notamment. Elle travaille pour ce faire avec une multitude d'acteurs, en premier lieu l'USH, qui est sa fédération de tutelle, l'État, les collectivités territoriales, les acteurs financiers ou institutionnels, et parfois même des acteurs institutionnels très éloigné de l'habitat. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour lier ça donc, au vieillissement, donc, il faut avoir quelques chiffres en tête quand même avant de commencer, à savoir que 30% des locataires de baux sociaux en Île-de-France ont plus de 60 ans. Donc ça rejoint ce que disait Madame Bourgoin de Delphis à l'échelle nationale, grosso modo, et qu'un locataire sur deux est même âgé de plus de 50 ans. Donc évidemment que la problématique du vieillissement et de l'habitat social est très importante. Alors on observe, de la même façon qu'on l'observe dans tout le pays, mais une tendance nette au vieillissement de la population, des locataires du parc social, ce qui engage évidemment une responsabilité d'envisager les conditions du bien vieillir au sein du patrimoine locatif social. C'est d'ailleurs en lien également, Madame de Delphis, on va parler, désolé, je vais faire un petit peu de redite, mais la loi d'adaptation de la société au vieillissement de décembre 2005 à, voilà, 2015, pardon, est allée dans ce sens, voilà, de la prise en compte de ces questions-là de vieillissement, notamment par rapport aux questions de mutation, et j'aurai l'occasion d'y revenir également. Que dire d'autre en introduction, voilà, que aussi les bailleurs HLM sont confrontés à un problème, à savoir que les difficultés rencontrées par les locataires âgés du parc social ne sont pas forcément toujours connues, parce que ces locataires n'en font pas toujours part à leurs bailleurs, donc toute une problématique là-dessus, et il y a des travaux à faire dans ce sens. Et aussi pour vous dire que les organismes HLM font de manière un peu périodique des études, enfin des questionnaires à leurs locataires pour savoir un peu voilà, là où ça marche, là où ça marche pas en termes de qualité de service. Et les deux items, on va dire comme ça, qui ressortent le plus par rapport aux personnes âgées en termes d'efforts à faire, concernent à la fois l'accessibilité. Quand je parle d'accessibilité, c'est à la fois l'accessibilité extérieure au logement, comment rentrer dans le logement, mais l'accessibilité également intérieure. Monsieur de Tanhaut parlait des portes, par exemple. Là, c'est un exemple typique. Et le deuxième gros point, c'est l'isolement social. L'isolement social est vraiment... Je crois que... Je ne me rappelle plus des chiffres, en fait, mais à l'échelle régionale, plus de 80% des locataires de plus de 60 ans faisaient part d'isolement social. C'est des chiffres qui donnent à différents niveaux. Et également, c'est des chiffres qui donnent à réfléchir. Alors, je vais partir des enjeux avant de partir donc des objets de travail, mais l'enjeu du vieillissement, et les enjeux du vieillissement, j'en vois trois, voire quatre. Alors, le premier, je vais pas m'étendre dessus parce que les présentations s'y attardent, vont s'y attarder et illustrer ce que je dis, mais il y a l'enjeu patrimonial, de fait, de favoriser le maintien à domicile, le bien vieillir chez soi, comme ça a pu être dit tout à l'heure. Alors, à la fois en termes de travaux de réhabilitation, mais des logements dans le diffus ou des travaux qui favorisent l'accessibilité au sein même des logements. Ça peut être également des adaptations de la taille des logements ou du prix du logement. Évidemment, c'est des choses qui ne se font pas comme ça, mais la politique interne des organismes peut aller dans ce sens, que je pourrais aussi détailler ou répondre à d'éventuelles questions. Et également, le développement d'une offre adaptée au vieillissement. Alors, c'est une offre diverse en part sociale, qui va du logement social classique à la résidence autonomie parfois, en passant par différents modes d'habiter un peu novateurs. Je fais référence notamment à l'habitat intergénérationnel. Donc voilà toutes ces questions patrimoniales que les bailleurs se posent. Et à ce titre, un travail en amont doit être réalisé, et ça c'est encore, il y a encore beaucoup de marge de progrès à faire dans ce sens, à savoir dans la planification des stratégies patrimoniales et notamment à l'échelle communale. Et là, je pense notamment aux programmes locaux de l'habitat qui ne programme encore pas assez dans le détail des logements adaptés aux personnes âgées, des logements qui s'adaptent et qui répondent aux besoins communaux. Donc ça, c'est un travail très, très important. Les bailleurs sociaux sont des partenaires évidemment très importants pour les communes. Parfois, les communes ont leur propre organisme HLM. Alors, je ne vais pas vous expliquer toute la hiérarchie HLM en France, c'est un peu compliqué, mais il y a différents types d'organismes HLM. Il y a des organismes HLM de droit privé, des SHLM, et il y a des organismes HLM liés à des collectivités, ce qu'on appelle les offices publics pour l'habitat. Alors, le deuxième grand enjeu, c'est un enjeu de qualité de service. Alors, la mission première d'un bailleur social, c'est quoi? C'est de loger, d'abord. Mais c'est aussi d'entretenir un patrimoine et c'est de garantir une qualité de service. Or, l'avancée en âge de certains locataires conduit à un élargissement de la notion même de qualité de service. Et ça, c'est tout un travail aussi à réaliser. Alors, qui vise à favoriser à la fois l'accès des locataires avançant en âge, donc à l'aide à domicile, aux soins, aux services, aux liens sociaux, etc., etc. Mais surtout pour l'organisme à faire évoluer sa gestion locative, ses modes de gestion locative. Et la plupart des organismes HLM réfléchissent à comment faire évoluer en interne leur process interne finalement pour prendre en compte ces problématiques. Alors, comment ça se traduit dans le concret? La plupart des organismes HLM désormais font appel à des référents dédiés sur les problématiques de vieillissement. On peut avoir des chargés de projet liés au vieillissement. Il y a également, madame en parlait aussi tout à l'heure, mais la formation et la sensibilisation des équipes de proximité sur les thématiques de vieillissement, afin d'être plus à l'écoute et de mieux prendre en compte les besoins des personnes âgées, ou la mobilisation des dispositifs d'aide, parce que les salariés du monde HLM ne sont pas forcément au courant de l'ensemble des dispositifs d'aide pour les personnes âgées, c'est quand même un univers assez nucléarisé. Ensuite, on pourrait parler des services adaptés, l'adaptation, c'est une politique d'accompagnement social visant à maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées dans le parc social. Je faisais référence à l'ergothérapie, par exemple, c'est un service qui est de plus en plus développé, en faisant appel à des aides extérieures, mais les bailleurs engagent de plus en plus de coopération, notamment avec Solia, en France, sur ces thématiques-là. Mais en disant tout ça, finalement, je fais que souligner un problème, qui est en fait un problème, oui et non, mais qui est corollaire de la multiplicité des acteurs du logement social en Ile-de-France, à savoir qu'il y a une politique très disparate des bailleurs en Ile-de-France vis-à-vis de ces thématiques-là, et que pour certains bailleurs, peut-être dans une logique de proximité, avec une réponse individualisée sur des demandes ponctuelles, d'autres vont être sur une logique plus, entre guillemets, industrialisée, sur des stratégies généralisantes, voire stigmatisantes, comme vous pouvez bien monsieur Tango, et qui ne semblent du coup pas forcément adaptées aux situations. Et le travail dans la dentelle est quand même globalement favorisé par les bailleurs, même si de fait on peut avoir des trous dans la raquette et passer à côté de certaines situations individuelles. Je vais vous parler du troisième enjeu, alors qui est un enjeu qui me concerne bien plus moi en tant qu'AORIF, c'est l'enjeu partenarial, parce que les bailleurs sociaux ne peuvent pas agir seuls pour favoriser le maintien à domicile des locataires âgés, d'où la signature de conventions qui se font entre acteurs qui ne se parlent pas énormément d'habitude. Je fais référence à des acteurs de la santé notamment, le milieu de la santé, le milieu de l'habitat, on est sur deux mondes quand même assez différents, c'est assez difficile d'arriver à entretenir le dialogue, à tomber d'accord sur un texte commun et un texte voire une feuille de route opérationnelle. Donc les bailleurs eux-mêmes sont amenés à signer différentes conventions avec différents acteurs, alors ça peut être des caisses de retraite, les collectivités territoriales, les CCAS, les acteurs du numérique, de la domotique, enfin ça peut être énormément d'acteurs différents. Mais à un niveau plus macro, je vais faire référence à la signature de deux grandes conventions toutes récentes, alors l'une un peu moins récente que l'autre quand même. En septembre 2016, une signature entre la CNAV et l'USH. Je rappelle que l'USH, c'est la Fédération Nationale des Organismes HLM. Donc c'était une convention qui a eu plusieurs déclinaisons territoriales et qui a abouti notamment à plusieurs appels à projets de la CNAV destinés aux bailleurs sociaux, justement pour mettre en valeur des projets innovants. Mais ce dont je voulais vous parler surtout, c'est la signature la semaine dernière d'une convention entre l'AORIF et l'ARS d'Île-de-France. Une signature d'une convention qui est plutôt une feuille de route opérationnelle, alors qui porte sur plusieurs sujets liés à la santé, hein, pas forcément que des sujets liés au vieillissement. Disons qu'il y a trois grands chapitres dans cette convention. Le premier qui est vraiment aux thématiques santé, environnement et habitat, avec un focus qui va vous parler, mais sur les punaises de lit. Énormément de problèmes là-dessus en ce moment. La thématique de la santé mentale et de l'habitat, et la thématique de l'habitat inclusif. Un travail va être engagé suite à cette convention durant toute l'année 2019. Alors, avec déjà un premier travail, j'ai envie de dire, qui va être un gros travail, je pense. Un travail de définition. Je vous ai parlé qu'il était assez difficile de parler entre acteurs de champs professionnels divers. L'habitat inclusif, qu'est-ce que c'est ? Quand je fais un petit tour de la littérature, qu'elle soit scientifique, institutionnelle, etc., personne ne parle de la même chose. Donc il va déjà falloir tomber d'accord là-dessus et je serais bien embêté de vous donner une définition de l'habitat inclusif tout de suite. Donc quand on sera d'accord sur ce dont on parle, on va pouvoir vraiment mener des actions et aller plus au-delà. Et faire avant mieux. Alors on rentrait dans le concret, dans l'opérationnel, faire état de la connaissance des besoins. Alors, c'est-à-dire fixer les conditions vraiment de la réussite, promouvoir les pratiques déjà existantes, parce qu'il y a déjà des pratiques existantes, et le label, par exemple, en fait partie, et des pratiques déjà existantes qui mettent en œuvre des actions collectives, à la fois d'anticipation, de prévention, des situations de perte d'autonomie. Donc tout ça, ça viendra outiller les deux premiers enjeux que je viens de vous parler, à savoir les enjeux patrimoniaux et les enjeux de qualité de service. Mais parler de faire un état de la connaissance, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Déjà, il va falloir croiser les données. Et Madame Barrette, juste au titre de la traçabilité des données chez les organismes HLM. Alors, pour peut-être développer un petit peu ça, mais suite aux lois récentes, les organismes HLM sont tenus de notifier la demande de logement social dans un logiciel national qui s'appelle le SNE, Système National d'Enregistrement. Ce SNE se met à jour de façon un petit peu difficile et en tout cas n'est pas un outil infaillible, a beaucoup d'imperfections. Et entre les logiciels internes de gestion de la demande chez les organismes et cet outil national, il y a des gros décalages. Et quand un organisme va, par exemple, dans l'outil de gestion et de données, notifier que tel ou tel logement est adapté aux seniors, il ne va pas remonter dans le système national d'enregistrement, d'où des incohérences et d'où une traçabilité très très difficile. Voilà, je vais en dire deux mots très rapidement. Donc il va y avoir vraiment toute une question de mise en commun de la donnée, sachant qu'elle traite de sujets différents, elle est tenue par des acteurs différents, et comme je viens de vous le dire, les outils actuels, y compris dans la seule sphère du logement social, ne suffisent pas. Donc il va y avoir tout un travail d'identification finalement des besoins d'adaptation des logements et de savoir où sont ces logements à adapter et qui y sont déjà. Après avoir fait ça, évidemment, il va falloir, entre guillemets, parler un langage commun, en tout cas faire un diagnostic sur les mêmes bases. Et ça va être tout un travail qui s'est engagé en 2019 afin de former les différents acteurs sur des canevas partagés et qu'on va pouvoir partir vraiment de la même base et vraiment travailler sur les mêmes horizons. Et enfin, faire un état de la connaissance, moi qui suis un acteur francilien, je ne peux pas le déconnecter du contexte francilien. Et en Ile-de-France, je suis obligé de inscrire mes opérations dans le contexte extra-tendu de l'Ile-de-France en matière de logement social. À savoir, pour vous donner des petits chiffres, mais il y a 720 000 demandeurs en Ile-de-France de logement social par an pour moins de 80 000 attributions. Alors, évidemment, c'est un contexte assez difficile, sachant que sur ces demandeurs, ces 720 000 demandeurs, il y a 11% des demandeurs qui ont plus de 65 ans, et que sur cette part de demandeurs qui ont plus de 65 ans, il y a une grosse partie de demandeurs, de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon technique, de mutation, c'est-à-dire de demandeurs qui sont déjà dans le parc social et qui veulent en changer. Et finalement, là, ça me pousse à parler d'un quatrième enjeu, qui est un enjeu un peu hybride entre l'accès et le maintien dans le logement, c'est l'enjeu de la mobilité résidentielle. Et ça, pour les personnes âgées, c'est vraiment un enjeu fondamental. Et heureusement, là-dessus, on a pu vraiment, vraiment, au-delà de nouer des partenariats, mettre en place des actions très, très concrètes. Et là, je vais parler des réserves à terre encore une fois. Mais pour parler grosso modo de l'un des freins des mutations en Île-de-France, c'est la question des réserves à terre. Pourquoi ? Quand un locataire est dans un logement de réserve à terre X, il ne peut pas muter dans un logement d'un réservataire Y. Parce que les réservataires d'Île-de-France fonctionnent en stock. Chacun leur stock de logement. Or ça, c'est un frein énorme parce que un bailleur social a des logements de divers réservataires. Et lui, quand il a une demande de mutation à un locataire, âgé ou pas d'ailleurs, les questions se posent au-delà, il va essayer d'identifier un logement qui puisse convenir à ce locataire. Et ça se trouve, il va tomber sur le bon logement, sauf qu'il n'est pas du bon réservataire, donc il va être bloqué. Pour lever ce blocage, tout un travail a été lancé depuis 2013, donc un travail inter-bailleur et surtout inter-réservataire, avec l'aide de l'État également, afin de mettre en place un protocole qui vise justement à lever ce frein-là de mutation inter-réservataire. Donc ce protocole, donc j'étais en charge de sa mise en œuvre, donc je peux très bien vous en parler, mais je vais essayer d'être bref. Ce protocole permet, ce protocole permet justement de faire ces mutations-là. Le bailleur pourra, au titre du protocole, activer des mutations, même si ces dernières sont inter-réservataires. Mais même pour être plus précis, il ne peut pas activer ces mutations pour tous les publics. Il est contraint sur 5 publics qu'on a prédéfinis pour une question de priorisation. Or, dans ces 5 publics, il y a un critère qui s'appelle adaptation au handicap ou à la perte d'autonomie. Alors, vous voyez que dans l'ensemble des publics prioritaires d'Île-de-France, et rien que dans le code de la construction de l'habitation, il y en a 12, on a dû vraiment resserrer la maille pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Mais l'un des critères est très explicitement destiné aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de handicap, ou aux personnes âgées atteintes de handicap, comme c'est parfois le cas. Donc il y a tout un travail qui a été fait, et ce protocole va être mis en place opérationnellement d'ici janvier, donc dans 2 mois. Donc on est très heureux de cette mise en place, et on espère que ça va vraiment lever des freins qui en plus étaient, on va dire, difficilement audibles pour des locataires. Aller dire à un locataire qui a besoin d'un logement adapté et le bailleur qui veut dire « Écoutez, j'aurai votre logement, j'ai un logement vacant qui pourrait vous convenir parfaitement, mais en fait, c'est pas le même réservateur que votre logement. Le locataire, il en a rien à fiche, il a bien raison. » Donc c'est pour ça que c'est un frein qu'on considérait comme un peu intolérable et un peu un penchant négatif d'un système très administré. Donc voilà, essayer de lever ce frein-là et assez satisfait. Surtout qu'on peut être sur des mutations à divers étages. Hein. Voilà. Et ça peut permettre également d'avoir, au-delà d'avoir un logement adapté, d'avoir un logement aussi avec un niveau de loyer plus adapté lui aussi. Tant que j'y pense aussi, petite précision sur la question de la sous-occupation, ça avait été évoqué, mais sous-occupation pour les personnes âgées. Alors, pensez aussi que depuis la loi MOL de 2009, si je ne m'abuse, pour les locataires âgés de plus de 65 ans, un bailleur social ne peut pas, entre guillemets, obliger ce locataire-là à changer de logement. Ça, c'est une bonne chose, ça protège les locataires en cas de cohabitation, mais ça a un mauvais côté aussi, et ça, les bailleurs s'en sont vite saisis. C'est que, puisqu'il n'est plus, entre guillemets, soumis à ce déménagement, il n'est plus indemnisé, entre guillemets, pour le déménagement. Comprenez que quelqu'un qui change de logement dans le cadre d'une sous-occupation, il va être aidé dans le cadre de son déménagement. Or, pour les personnes âgées qui sont en situation dispositif, c'est plus le cas. Donc, beaucoup de bailleurs se sont saisis de ces questions et aident par divers biais les locataires âgés qui changent pour des cas de sous-occupation, qui n'en étaient pas obligés à déménager. C'est peut-être un peu technique, j'espère que j'en ai pas perdu. Voilà, j'ai marqué réservataire, j'en ai parlé, je vais un peu conclure. aussi peut-être conclure en disant qu'on... Moi qui suis observateur du logement social, en tout cas en Ile-de-France, j'observe quand même un changement de pratique, je dirais même un changement de paradigme de la prise en compte des locataires seniors dans le parc social. Notamment au niveau de la qualité de service, et j'observe même des bailleurs qui s'appuient de plus en plus sur leur force vive. Alors ça peut être à la fois en interne, notre équipe de proximité, qui sont du coup maintenant très bien formés, mais les conseillers sociaux, les gardiens, évidemment, qui représentent, je crois, 20% des salariés du monde HLM, peut-être plus, et également les partenaires extérieurs. Et j'en ai peut-être pas parlé assez, mais les bailleurs cèdent énormément d'outils, ou cèdent énormément par des partenaires extérieurs qui connaissent bien ces questions-là et qui maîtrisent mieux qu'un bailleur qui, évidemment, n'a pas vocation à être spécialisé sur tel ou tel public. Voilà. Et même si les initiatives à mener en ce moment sont chronophages, il faut le dire, longues, complexes et coûteuses, j'ai pas parlé des coûts, mais c'est un peu volontaire parce que je veux pas les actions dépendent de cela à chaque fois, donc je veux pas que ça en dépende. Au vu de la conjoncture économique du logement social actuellement, pour prendre le contexte, mais les bailleurs ont perdu 80% de leur capacité d'autofinancement depuis maintenant, depuis ce qu'on appelle la LLS. Donc évidemment que sur les 80% de perte d'autofinancement, il y aura, j'imagine, des moindres investissements sur les questions d'habitat senior. Et je ne voulais pas prononcer un discours naïf devant vous quand même.
Bien, écoutez, on a utilisé le temps qui était imparti, il nous reste peut-être une ou deux questions. Je ne sais pas si l'auditoire est parfaitement rassuré après votre discours, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont des besoins seront morts avant que l'organisme HLM se soit adapté. Je ne suis pas rassuré du tout. Il y a maintenant pour une question. Deux questions.
C'est pas tout à fait une question, c'est plus une réflexion. Je rapproche votre intervention quand vous disiez que dans 10 ans à peu près, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Quand j'entends votre discours, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma famille. J'ai une famille partagée entre la Suède et la France. Je vois ma partie à moi française, mes grands-parents qui ont très mal fini leur existence. J'ai des problèmes avec mes parents qui ont 80 à 90 ans et on attend malheureusement l'accident imprévu. Et je regarde la partie suédoise où on se retrouve avec des choses qui se font au fil de l'eau, avec une adaptation, un accompagnement, que ce soit aussi bien dans le logement social que dans le logement privé. Et je m'interroge fortement. Par ailleurs, dans les rues de Göteborg, où je me retrouve fréquemment, combien de fois en parlant français, j'ai été interpellé par des personnes âgées françaises ou, handicapées, qui m'ont interpellé et en leur demandant qu'est-ce qu'elles faisaient en Suède sans attache locale, elles m'ont avoué qu'avec le peu de revenus qui était le leur, dans le cadre de l'Europe, c'est la seule solution qui leur restait pour finir dignement leur jour. Alors je m'interroge très fortement. C'était une réflexion.
Alors je me garderai de parler du privé parce que je ne représente pas le logement privé. Je ne le connais pas, mais je le connais assez pour dire que même si j'ai pu, on peut avoir eu plein d'a priori sur les HLM en termes d'adaptation des logements au vieillissement. La plupart des logements, il y a plus de logements HLM adaptés au logement que de logements privés. Donc, je le rappelle juste pour peut-être déconstruire certaines idées, vous avez bien fait de rappeler ce chiffre qui fait réfléchir, à savoir qu'un tiers de la population a plus de 60 ou 65 ans, je ne me rappelle plus. Évidemment que dans un parc HLM, qui en plus en Ile-de-France est très ancien, c'est-à-dire que une grosse partie des HLM en France, il ne faut pas l'oublier, on est sur du parc ancien qui a été construit dans les années 60-70, à une époque où les normes n'étaient pas les mêmes. Même avant-guerre, on va pouvoir revenir au HPL, qui était avec des portes encore plus étroites, alors même les lunettes sont étroites, alors imaginez les portes. Donc évidemment que c'est la politique du logement et la politique d'adaptation des logements en vieillissement, elle est très longue, complexe à mettre en œuvre, et on ne peut pas dynamiter des millions de logements du jour au lendemain et reconstruire des logements adaptés. Si c'est possible, on le ferait. On investirait en masse là-dessus, mais voilà. Oui, madame.
Pour un mot sur le vieillissement dans les pays scandinaves, en Belgique, etc., il est certain que ça, les choses ont été beaucoup plus fluides et sont souvent prises beaucoup en amont. Nous, à Futura, on a essayé d'avoir fait des missions à l'étranger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, en particulier des pays scandinaves et un peu aussi de l'Italie. On a beaucoup mieux organisé en France. Et on a l'impression parfois en France qu'on découvre un certain nombre de problèmes qui sont déjà largement traités dans d'autres pays. Pour multiplier les échanges avec les gens qui s'occupent des personnes âgées. Je ne vais pas continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça serait un sujet important à traiter, les exemples français.
Oui, justement, en parlant de problème, moi je suis très intéressée par les protocoles interpréservataires, parce que justement, je trouve qu'on est très 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 en retard sur la volonté de réaliser et de retirer les freins. Représentant une collectivité réservataire de logement, il y a longtemps qu'on propose aux organismes dans les situations de besoins personnes à mobilité réduite ou handicap, de franchir les barrières des réservataires, parce que c'est quand même le bailleur qui est le plus adapté et mieux positionné pour identifier le logement qui pourrait correspondre. Donc moi, je suis très intéressée, mais surtout, je me dis, ça dépend aussi, au-delà d'un protocole, d'une volonté de vouloir faire un protocole, est-ce que ça va suffire à ça?
Alors, c'est un protocole qui est expérimental, mais qui va permettre d'anticiper une généralisation dans le cadre de la loi Elan qui vient d'être voté et mise en application les 5 jours.
Et est-ce qu'il est suffisamment détaillé pour que si on y va, on voit bien comment ça va fonctionner?
Oui, bien sûr. Vous, en tant que collectivité, vous allez, entre guillemets, mettre du pilotage. C'est-à-dire, vous allez pouvoir voir quels sont les logements qui ont... Mais ça fait en tout cas grand plaisir d'entendre ça, parce que dans le cadre de ce protocole, la mobilisation des contingents communaux est peut-être la partie la plus épineuse, et de savoir qu'il y a des collectivités. D'ailleurs, je me rien que vous me dites laquelle.
Moi,
oui.
Moi, je suis la mairie de Chaussée-le-Roi.
Très bien. Bah, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ce...
Prendre des coordonnées de M. Ravel, qui sont importants, mais il faut qu'on passe à la suite. Merci. M. Georges,
vous voulez me voir.
Merci, M. Ravel. C'était quand même très intéressant d'avoir cette information.